Icône avec Eddie Mitchell. Bonjour Eddie Mitchell.
Bonjour.
C'est assez facile de préparer cette émission puisque avec le dictionnaire de ma vie que vous avez réalisé avec votre fils Eddie Moine,
oui.
Il y a les icônes de votre vie. Mmh. J'imagine, ça commence par la lettre B, par exemple, Bilalay.
Oui.
Oh, bah, Belleville. Belleville.
Belleville, oui, effectivement. Oui.
Belleville, c'est là où vous avez vécu votre enfance avec vos parents. Mmh. Et vous avez découvert le cinéma dans des salles comme le Cocorico.
Le Cocorico, c'était le dernier, hein, parce qu'il était presque à Goncourt. Donc après, on n'avait pas le droit d'aller, c'était plus Belleville.
Le Floréal, c'est ça?
Le Floréal, le Florida, le théâtre de Belleville, le Belleville Pâté, le Tourelle. Ah, il y en avait. Hein.
Et Bilalay, alors?
Et Bilalay, bien sûr, parce que Bilalay, c'était extraordinaire, parce que c'est lui, c'est le premier qui nous a donné envie, enfin, cette génération dont je fais partie. De chanter, d'un seul coup, de vouloir avoir des disques, de vouloir écouter de la musique. Parce que en France, on avait de bons chanteurs. On avait Bécaud, Aznavour, Eddy Constantine.
Constantine est à part pour vous un peu.
Oui, parce que Constantine, j'étais très fan d'Eddy Constantine quand j'étais gosse. Et quand j'ai commencé à chanter, avant de chanter avec les chaussettes noires, bien entendu, tout ça, je chantais dans des petites boîtes ou dans des balles. Et j'imitais Eddy Constantine. J'imitais pas mal, d'ailleurs.
C'était la chanson fétiche ?
C'était « À les femmes », parce que c'était une attraction. J'avais 15 ans, et un môme qui chante « À les femmes », ça faisait sourire tout le monde.
C'était comment, « À les femmes » ?
Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant pour les femmes. À les femmes.
Et ça marchait.
Ah oui. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si ça marcherait. Mais...
Bilalay, donc c'était Bilalay et les comètes, c'est ça hein,
Oui.
Rock Around the Clock.
Ah oui.
Et là, vous compreniez le texte
Non, pas du tout. Non, mais c'était pas grave. C'était surtout l'énergie que ça dégageait. C'était ça qui était intéressant, puisque en France, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. D'ailleurs, aux États-Unis, ça a été le même bouleversement, car c'était l'époque de Perry Como, des chansons sucrées. Guimauve, etc. Et Bilalay, tout foutu en l'air.
Avec Little Richard, Gene Vincent.
Oui, tout ça. Pas... Mais on les a découverts ensuite, ça.
Ouais.
Et... Presley aussi, ben, ensuite.
Et comment on peut aimer des chansons sans comprendre le texte là ?
Oh, ben, c'est un son.
Ouais.
C'est le son, surtout.
Et vous les reproduisiez en
yaourt. En yaourt, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Et à ce moment-là, donc, vous étiez proche de Johnny Hallyday,
oui.
Jean-Philippe Smet,
oui.
qui vous a piqué vos premiers disques.
Oui. C'est comme ça qu'on a fait connaissance, d'ailleurs. Mais après, je n'en ai pas voulu, parce que c'était des disques que j'adorais, et lui adorait les mêmes choses. Donc, on était fait pour s'entendre.
Vous étiez proche dès le début.
Oui, enfin, le début, c'était une claque dans la figure, quand même. Bon.
Pourquoi ?
Parce qu'il m'avait volé. Il m'avait volé.
Il fait partie des icônes de votre vie.
Oui, puisque il est toujours présent dans ma vie, de tous les jours. J'y pense très souvent. Et on s'est toujours bien entendu, à tel point que il était le parrain de ma petite Pamela. Moi, j'étais le parrain de Laura. Ouais. Donc, on a toujours été très, très, très proches.
De lui, il y a des épisodes que vous racontez dans ce livre, puisque vous parlez aussi de cuisine, et qu'un jour, vous l'aviez invité à dîner, il était arrivé un peu fatigué.
Oui, très, 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 très arrangé, oui. Et c'était ma fille aînée, Marilyn, qui le reçoit. Moi, j'étais avec les amis sur la terrasse, etc. Et elle me dit, Johnny voudra un tartare. Je fais, mais ça va pas, non, il va manger comme nous. Et j'arrive vers lui, tu vas manger comme nous, hein, parce que... Non, je m'excuse d'être en retard. Mais il avait la voix un petit peu fatiguée.
Un peu pâteuse. La cuisine, ça compte, j'ai découvert ça dans votre vie. Vous aimez cuisiner?
Oui, mais enfin, je cuisine des choses très, très, très simples.
Hein, en aide de chef comme Guy Savoie.
Ah oui, bah oui, parce que c'est des gens qui m'ont toujours étonné, et qui sont passionnants, et qui sont des travailleurs hors pair, parce que c'est des gens qui se terminent à 4h du matin et qui vont marcher le matin à 10h. Donc, ils font des petites siestes, mais quand même.
Et vous cuisinez quoi ?
Oh, moi, je fais très bien, mon fils le sait.
Les pâtes sans eau.
Les pâtes sans eau.
Comment c'est, les pâtes sans eau ?
C'est-à-dire que vous faites comme un risotto, vous préparez un bouillon.
Oui.
Un bouillon et vous mélangez à chaque fois vos pâtes jusqu'à temps qu'elles cuisent. Voilà.
D'accord.
Mais ça s'appelle les pâtes sans eau, c'est une appellation italienne que j'ai appris en étant à Florence. Voilà.
Et dans les icônes musicales, donc on a parlé de celles de votre jeunesse.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez des icônes différentes?
Non, pas vraiment, non. Non. Enfin, j'aime beaucoup plein de choses, mais de là à ce que ce soit des icônes, parce que tout va trop vite, je trouve, aujourd'hui.
Ouais.
Et puis en plus, il y a beaucoup de musique faite au maître, ça m'intéresse pas beaucoup.
Ouais. C'est quoi la musique faite au maître?
C'est-à-dire que c'est fait dans sa cave avec des petits appareils, tiens, voilà une batterie, tchoum tchoum tchoum, tiens, voilà un piano. Voilà, bon, ça m'intéresse pas beaucoup.
D'accord. Le cinéma, on n'en a pas encore parlé, parce qu'on a parlé de Belleville et des cinémas de Belleville de votre enfance qui vous ont donné, en fait, l'idée beaucoup plus tard de faire la dernière séance.
Oui, c'est... Bah, le cinéma, c'est dû à ma famille, à mon père, à mon frère aussi, puisque mon père travaillait de nuit et venait me chercher à l'école vers 4h30, 5h, et on allait directement au cinéma, donc les devoirs, j'avais pas le temps. Et quand mon frère rentrait, on retournait au cinéma, donc... J'étais un très très mauvais élève.
Oui, vous êtes un grand cinéphile.
Oui, mais un grand cinéphile.
Vous avez commencé très tôt, vous avez eu des milliers de films dans votre vie.
Ah oui, on voyait deux films par jour, de toute manière.
Ouais. C'était les films dont vous vous souvenez?
Ah oui, Les Aventures du Capitaine Viat, avec un technicolor incroyable, avec des filles extraordinaires.
Et la dernière séance est arrivée comme ça, en fait?
La dernière séance est arrivée avec le patron d'un cinoge qui était l'Ermitage, c'était sur les Champs-Élysées. À qui j'étais copain, et on échangeait des affiches, des choses comme ça. Et puis un jour, on dit, tiens, c'est con, le cinéma à minuit, ça soit fermé, sinon on nous laisse la salle à minuit, on se projettera des films pour nous. Mmh. Et puis après tout, ça peut intéresser le public. Et je me souviens que le premier programme, les gens étaient ravis, ils sont rentrés à minuit, ils en sortaient à 5h du matin. Le premier film qu'on a passé, c'était Bandido, Caballero, et La Blonde et moi. Et avec des documentaires d'époque.
Ouais.
L'influence boréale sur le comportement sexuel des fourmis rouges en Arizona. Chose comme ça, très intéressante.
Eddie Barclay, ça fait partie de vos icônes, évidemment.
Bah oui. Malgré le fait qu'au départ, c'était mal parti, puisqu'on ne pouvait pas se voir, à cause de contrats merdeux qu'il m'avait fait signer. Ah oui, 1% quand même. Hein.
Ah oui,
fort quand même.
Mais net ou brut?
Je ne sais même plus. Enfin bref, ce qui faisait que je ne voulais pas faire de promo. Donc à chaque fois, il fallait qu'il me fasse une rallonge.
Ça, c'était l'époque des chaussettes noires.
Ouais, ouais. Ouais, et comme il n'y avait qu'une télé, ils étaient bien obligés.
Ouais, et puis en plus, vous aviez un sponsor, je me souviens.
Oui, les chaussettes Stem.
Moi, je vous ai vu à Château, ouais, arriver, ouais, aux Nouvelles Galeries.
Ah bon?
Pour une signature de disque avec les chaussettes Stem. Et la première audition chez Eddie Barclay, c'était incroyable.
Oui, parce qu'on était bien sûr à la bourre, comme souvent. Et pendant que mes collègues débarrassaient la voiture du matériel, moi, je montais prévenir qu'on était en retard. Et c'était au studio Hoche, qui est devenu maintenant les salons Hoche, avenue Hoche. Et donc, j'étais embêté parce que l'escalier était encombré par un gros black qui était là, mais qui était à quatre pattes, qui avait l'air un peu éméché, même pas qu'un peu d'ailleurs, avec un serviteur, avec la bouteille, avec les glaçons, etc. Et puis, qui se tourne vers moi, il me fait « Hey, man !» Et c'était Louis Armstrong. Et j'ai fait, ça commence bien. Je monte, et là, arrivé devant les studios, il y avait Paul Newman et sa femme, John Howard, qui étaient là en train de discuter. Et puis une porte s'ouvre, il y a Duke Ellington qui sort, et une autre porte, Quincy Jones, qui me fait, vous venez pour l'audition, c'est par là. Ah bon. Et je lui ai dit, mais il se passe
quel
quoi
Quel accueil.
Mais non, ils enregistraient la musique d'un film qui n'est pas mémorable, un film Paramount. Avec de Martin Ritt, avec Paul Newman, Sidney Poitier, et musique de faite par Duke Ellington d'ailleurs. Et donc voilà, tous ces gens-là enregistraient cette merveilleuse bande originale de film.
Et là, vous avez enchaîné audition et disque très rapide.
Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, on était très étonnés parce que on avait des guitares qui étaient ridicules, enfin tout ça, c'était pas un son formidable. Et tout de suite, on a dit, vous revenez dans 15 jours, travaillez un peu votre truc, et on enregistre. Ah bon?
Le premier titre, c'était
Biba Paloula.
Ah bah oui, évidemment. Biba Paloula, baby, Biba Paloula, tu as ma douce amie. Biba Paloula, où donc es-tu parti? Biba Paloula, sans toi, je m'ennuie. Biba Paloula, si je m'ennuie. quand on dit Eddie Barclay, on dit Saint-Tropez, qui est si dans, oui, dans, oui. dans vos icônes Saint-Tropez.
Ouais, vous aimez j'adore. Saint-Tropez. Ouais. Bah, j'adore parce que d'abord j'ai fini par acheter une maison là-bas parce qu'il me manquait toujours 3 francs 2 pour en faire 4. Et
même puis, le Crédit Lyonnais, vous ne prêtez pas?
Ah ben non, mais non, petite manière, le Crédit Lyonnais, sans moi. Sans moi.
Bon, oui.
Non, bah Barclay, oui, Barclay. Avant, il allait à Cannes. À Cannes, à l'hôtel Martinez, si je me souviens bien. Puis un jour, il a découvert Saint-Tropez, il s'est fait construire une baraque, qui était absolument géniale d'ailleurs. Et là, il recevait tout le monde. C'était formidable.
Vous étiez chez vous un peu.
Oui.
Alors, vous lisez beaucoup. Vous lisez beaucoup. Vous lisez Céline, Modiano, Kessel.
Oui. Mais enfin, Kessel, c'est quand j'étais gosse. Ouais. Maintenant, je n'ai pas relu Kessel depuis, je ne sais pas, 30 ans.
Et Céline, ça fait partie de vos...
Oui, Céline, c'est pas de chevet, mais je veux dire, Céline, c'est on s'y replonge pour lire un passage, pour lire 2-3 lignes, ça suffit parfois.
Ouais. Et Modiano, vous les lisez tous?
Modiano, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
J'aime son côté, pas de la nostalgie, mais le côté recherche du temps perdu, mais dans le vrai sens du terme, de lieu, de quartier, de Paris d'ailleurs.
Est-ce que vous vous sentez, dans cette période, comment vous sentez-vous, cette période que l'on vit aujourd'hui?
Ah ben, je la trouve un peu masquée, quoi.
Ouais. Et vous vivez comment? Vous êtes.
Mais moi, je suis confiné depuis très longtemps, vous savez, donc ça ne me dérange pas trop.
Enfin, pas aussi longtemps que Jacques Dutronc, mais presque.
Non, bah lui, il est complètement. Il est dans le Saint-Doux, lui. Non, c'est Jacques. Ouais.
Il fait partie des icônes, peut-être.
Ah oui. Ah oui, non, Jacques. Jacques, en plus. Jacques a un humour très très particulier. Par exemple, à Noël, il m'a envoyé sa crèche. Et sa crèche, c'est un tas de choucroute avec des petites saucisses. C'est formidable.
Les vieilles canailles, c'était une façon de boucler une boucle.
Oui, ça c'est surtout Johnny qui y tenait.
Ouais.
Parce que, enfin, on s'est bien amusé, on a passé de très bons moments. Mais c'est surtout Johnny qui vraiment y tenait énormément et qui a tenu à ce qu'il y ait une deuxième saucée.
Ouais, c'était un plaisir. Vous voyez, oui. Ben, quand on était dans la salle, on voyait que c'était un plaisir.
Bah oui,
on que vous nous faisiez partager. Ouais.
Oui.
J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je chante autant que je l'aime. Et je le chanterai. Toujours. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jour pour sortir les peines et les espoirs, pour sortir Dieu et puis l'amour. Oui, la musique vibre, tant que vibre les blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime.
Nashville, on n'a pas dit.
Nashville, j'y suis allé la première fois, c'était en 67. 67 avec Jean Fernandez, qui était mon directeur artistique, et on allait sur Muscle Shoals, à l'Alabama. Et Nashville, ça nous paraissait quand même un paradis à côté de Muscle Shoals, parce que Muscle Shoals, à l'époque, c'était une rue avec... du béton, et puis d'un seul coup, de l'herbe. C'était un dessin de Lucky Luke, un petit peu. Et donc, Nashville, c'était quand même des studios fantastiques, c'était bon. Que ma seule chose, c'était... Il n'y avait pas de rouge pour dire « N'entrez pas, on rentrait comme on voulait », pendant que tout le monde enregistrait, puisque je me souviens d'avoir dérangé Benny King en train de chanter « What is soul », vu qu'il me faisait signe « Entrez, s'en foutait ».
J'allais voir Luis Mariano dans le jardin de Mexico. Maman et moi on rentrait en métro, station Opéra, direction Lila. Nostalgie facile, mais
swing pas terrible. Où sont mes racines, Nashville ou Belleville?
Vous parlez de bande dessinée. En fait, vous vouliez faire de la bande dessinée.
Oui, 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 mais j'avais pas le talent nécessaire et le comment dire, non, pas le courage, mais l'argent pour faire les beaux-arts, parce que j'avais eu un conseiller qui était d'autre que M. Mézières, quand même, qui est un très grand dessinateur, à qui l'on doit Valérian, entre autres, et qui m'avait conseillé d'aller passer les beaux-arts. Mais j'ai pas les moyens, au revoir.
Et Dimoine, vous êtes le fils de Claude Moine. Vous avez réalisé ce livre. Est-ce que vous avez appris des choses sur votre père ?
Oui, beaucoup sur ma famille, d'abord. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes tantes, mon oncle. Et puis, oui, la façon dont il travaille, l'angoisse de la feuille blanche, et puis son travail avec Pierre Papa Diamandi, son compositeur.
Ouais, on se rend compte que la famille compte beaucoup.
Oui, bah oui, ouais. Il a toujours été très, très, très proche et très à l'écoute.
C'est pas toujours évident, vu le rythme de vie qui était le sien.
Oui, mais il prenait le temps pour.
Ouais.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui ?
L'écoute qu'il a par rapport à ses enfants. Et puis bon, c'est quelqu'un avec ses amis qui est très, 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 très fidèle.
Merci beaucoup.